Radio Rancière présente Tournepage, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je reçois Nadia de Kermel, une journaliste passionnée par le monde des jardins. Elle a écrit plusieurs ouvrages, Le Petit Larousse des Roses, que nous retrouverons en septembre, sur les pas d'un maître jardinier. Elle publie également des articles dans le livre, par exemple, la revue L'Ami des Jardins et de la Maison. Et aujourd'hui, je la reçois car elle a supervisé le numéro hors série de Pays du Perche, Les Jardins du Perche, un ouvrage que je vous recommande, chers auditeurs, parce qu'il y est foisonnant de jardins plus beaux les uns que les autres. Nadia de Kermel, bonjour.
Bonjour Christiane.
Alors, dans ce numéro spécial, vous avez organisé les jardins, vous avez défini plusieurs sortes de jardins. Et j'aimerais bien que vous expliquiez à nos auditeurs quelles sont les différentes sortes de jardins qui existent dans le Perche, puisqu'il s'agit d'une revue sur le Perche essentiellement.
Alors, il y a plein de façons de trier, de classer les jardins, bien évidemment. Dans leur série, on a choisi de les classer en fonction des jardins de professionnels, qui sont soit des paysagistes, soit des pépiniéristes, des jardins plus champêtres, des jardins contemporains. On les a classés par style. Mais on aurait tout aussi bien pu choisir de parler des jardins ruraux, des jardins plus classiques qui sont les jardins de château du 17e ou du 18e, parler aussi des jardins particuliers, des jardins d'ornement d'aujourd'hui, oui, qui sont beaucoup donc dans le hors-série. On peut classer les jardins de plein de façons. Mmh.
Eh bien, moi, j'aimerais bien que nous suivions le plan que vous avez organisé dans cette revue, à savoir peut-être évoquer tout d'abord les jardins ruraux, puisque nous sommes à la campagne.
Alors, en fait, les jardins ruraux, j'en parle dans l'introduction, parce que c'est des jardins qui deviennent extrêmement rares, c'est les jardins des gens... c'était 90% des jardins qui étaient dans le Perche, c'est-à-dire des gens qui avaient une ferme à manoir, petite maisonnette, tout le monde avait un potager, ce sont des jardins nourriciers, oui. Mais pas seulement, on trouve aussi dans ces jardins-là souvent des trésors, des plantes rares. Il y a quelques années, j'avais fait un reportage sur les jardins de grand-mère, et il se trouve qu'on trouvait dans leur jardin des plantes incroyables. J'ai souvenir d'une anémone endémique de Corse, et à grande fleur rouge, mais qu'est-ce que fait cette anémone dans ce jardin-là? Et la petite grand-mère me disait, mais oui, c'est monsieur le curé qui faisait des camps de scouts dans le midi, il avait ramené ça à maman, et donc j'ai ça depuis toujours. Donc dans ces jardins qu'on a trop largement méprisés et qu'on méprise encore aujourd'hui, souvent, parce qu'on trouve que voilà, il n'y a que des patates et des carottes, il y a, en plus d'un savoir-faire merveilleux, de gens qui connaissent parfaitement bien la terre, les saisons, la lune, tout ça, et des techniques d'ailleurs qui reviennent aujourd'hui au goût du jour. En plus de ça, on trouve des plantes vraiment pas ordinaires, et c'est pour ça que je l'ai évoqué dans l'introduction, mais on n'en a pas beaucoup, on n'en a pas de photos vraiment dans le hors-série là. Parce que d'abord, ce sont des jardins qui ne se visitent pas, et on a essayé de mettre un maximum surtout, de jardins, parce que ça donne envie quand on voit les photos.
Voilà, donc chers auditeurs, quand vous allez écouter Nadia de Kermel expliquer ces jardins, vous aurez vraiment envie d'aller les visiter.
Alors tous, en revanche, ne se visitent pas. Dans le hors-série, il est vrai qu'on a essayé. Bien sûr, on n'est pas exhaustif. Bien sûr, tous les jardins du Perche ne sont pas dedans, parce qu'il faudrait... Oui. Plusieurs tomes, on a essayé de donner des exemples de tous les styles de jardins qu'on peut trouver, donc comme je vous disais tout à l'heure, plus ou moins romantiques, ou champêtres, ou contemporains, ou voilà, et d'en mettre un maximum qui sont ouverts à la visite, même si tous ne le sont pas.
Voilà. Les jardins ruraux, ce sont des petits jardins en général.
Pas forcément. Il se trouve que celui que j'aime par-dessus tout, que j'ai aimé par-dessus tout, était celui de mon grand-père, dans le Perche, près de Condo. Et il était très grand. Alors, il n'était pas... par sa taille, c'est vrai qu'il était plus proche peut-être des jardins de manoir. Enfin, il y avait une partie en vert, c'est-à-dire qui était en pelouse, qui était plantée d'arbres en haute tige. Il y avait de grands pommiers, il y avait un tilleul, des noyers, etc. C'était des cerisiers, voilà. Ça, c'était bien 3000 mètres carrés, déjà. Ah oui. Et il y avait aussi un verger qui était exclusivement réservé aux poiriers, qui demande un petit peu plus de soins. Donc eux, c'était des bastiches qui étaient taillées en gobelets, très beaux, qui étaient séparés par une barrière et une haie de framboisiers, puis les grands murs. Donc c'était vraiment à l'abri pour bien les tailler et récolter facilement les poires sans qu'elles tombent, sans qu'elles s'abîment, etc. Et le potager... Alors qu'ils étaient que deux, hein. Le potager devait faire à peu près 1500 mètres carrés. C'était absolument énorme, avec une partie... mais voilà, il était organisé comme tous les jardins ruraux, c'est-à-dire par planches, avec des passe-pieds, des allées bombées pour que l'eau circule, s'écoule sur les côtés, en terre battue, bien sûr. Et bien sûr, biné amoureusement, on mettait aucun produit dégueulasse dedans. Et il y avait un jardin bouquetier. Alors, toute la partie potager était cachée, c'est souvent le cas, on cachait la partie potagère.
D'ailleurs, il y avait une entrée plus
voilà, jolie qui était très discrète. Et puis, on voyait, qui donnait sur le chemin, on voyait le jardin d'agrément avec le buis qui était énorme. Puis là, il y avait des rosiers, des pivoines, des œillets myardises, des dahlias à l'été. C'était foisonnant de couleurs et de parfums.
Et est-ce que c'est la vue de ce jardin qui vous a incité à écrire, oui, vous-même,
c'est évident.
À devenir...
C'est évident, ça c'est évident. Alors, c'est pas très original, parce que souvent les gens disent « on vient au jardin parce qu'on a baigné dans le jardin d'un grand-père ou d'une grand-mère ». Et il est vrai que c'est dans ces jardins-là où, quand on est enfant, même si on s'y ennuie, sur le coup, on nous laisse faire ce qu'on veut. Enfin, je pense que quand bien même on aurait des parents qui aient un beau jardin, l'ambiance n'est pas la même. Les grands-parents laissent faire. Ou ils ont du temps, ils sont disponibles, et alors ils disent, tiens, viens voir, on va se mettre des radis, etc. Il y a un autre rapport, du coup, qui fait que ces jardins deviennent, on s'en rend évidemment pas compte sur le coup, mais 20 ans ou 30 ans après, il y a des odeurs qui reviennent, des parfums, et on en a envie.
Alors, ça, ce sont les jardins ruraux. Il y a également les jardins de château.
Oui, alors, dans le Perche, il y en a beaucoup parce qu'il y a toujours eu une tradition, les Parisiens sont toujours venus dans le Perche et avaient dès le 16e, 17e.
Peut-être vous pouvez évoquer le château de Laurière.
Très
beau jardin.
Alors, le château de Laurière, on en a parlé, c'est un parc du 18e. Alors, même si Laurière est du 17e, je crois, le pavillon est du 17e. Mais ce qui s'est passé... Alors, je peux parler du 17e d'abord. Il y a le château de Cherpérine, qui, lui, est assez remarquable pour la perspective qui s'ouvre derrière le château. Et il a un tracé très régulier. Donc, le 17e, on est d'accord, c'est les jardins à la française, très réguliers. Enfin, on appelle ça jardin à la française. Idéalement, il faudrait dire les jardins réguliers, qui sont faits à l'époque, par le nôtre bien sûr, et d'autres architectes paysagistes. Donc c'est vraiment très architecturé, très rigide finalement. Il y a rien de naturel là-dedans, tous les arbres sont maintenus par la taille, guidés, les allées sont calculées pour qu'il y ait des perspectives, etc. Bon. Donc évidemment, il y en a, Cherpérine est un bon exemple, de beau reste du 17e, mais souvent... Au 18e ensuite, le 18e, c'est la mode des parcs à l'anglaise qui...
Ce qu'on trouve à Laurière.
Alors, c'est ce qu'on trouve à Laurière. Et c'est souvent des jardins qui ont été en France créés au 19e. Laurière, c'est 1850. Oui. Donc, et là, il y a dans ces parcs qui sont à l'opposé totalement des jardins réguliers, qui sont très proches de la nature. On plantait de grands arbres, on essayait d'avoir des bassins, des petits pavillons. Il y a aussi le château du Tertre. Alors, à Sérigny, c'est différent. Oui, mais il y a une partie à la française qui est derrière le château, qui est donc du 17e, donc des parterres en pelouse qui sont très réguliers. Et le parc est quand même un parc à l'anglaise. Et je trouve très symptomatique parce que là, on retrouve une petite fabrique qui, même si certaines ont été...
Et je signale à nos auditeurs que ces trois jardins peuvent être visités.
Absolument, oui. Chère Périne, le tertre, on peut y aller quand on veut. Et c'est gratuit, qui plus est. Et c'est un lieu absolument magnifique. Ah, vraiment magnifique, parce qu'en plus, les alentours sont, ont été, non pas classés, mais protégés.
Puis on arrive par un petit chemin.
Donc, quand on est là, on ne voit aucune route, aucun fil électrique, on est absolument au 18e. Ah oui, c'est merveilleux.
Oui.
Un très beau but de promenade. Et puis ensuite, bon, alors ça, c'est... On pourrait très bien imaginer dans le Perche faire, se dire, le temps d'un week-end, visiter tous ces grands jardins, ceux qui se visitent, tous ne se visitent pas, mais des jardins du 17e ou du 18e, puisque souvent, ils ont le 18e a écrasé le 17e, donc on trouve souvent des parcs un peu à l'anglaise quand même, mais avec des arbres remarquables.
Alors, il y a également, il y a beaucoup de sortes de jardins, vous voulez parler ensuite de quel
Alors, mais après... Alors encore, grâce à cette tradition finalement des Parisiens qui aiment venir dans le Perche, on trouve aujourd'hui beaucoup de jardins d'ornement récents qui sont très souvent effectivement des créations de gens qui ont ici des résidences secondaires ou qui se sont installés définitivement mais qui viennent de Paris.
Oui, parce que les plus beaux jardins, ce sont en fait des Parisiens qui habitent.
J'ai pas envie de dire ça. J'ai pas envie de dire que ce sont les plus beaux jardins précisément parce que je trouve qu'il y a des jardins ruraux qui sont remarquables. Exemple. Mais qu'on ne sait pas regarder. Il faut ouvrir l'œil. Ce ne sont simplement pas des jardins qui se visitent, ce sont des jardins... voilà. Mais je trouve qu'il faut ouvrir l'œil quand on se balade en vélo, en voiture. Souvent, on ne voit pas assez bien. Mais il y a des petits jardins de petits papis dans la campagne qui sont de toute beauté, avec un charme fou. Et il se trouve que si on aime les jardins, je suppose que quand on voit les gens dans leur jardin en train de bêcher, si on leur demande... D'approcher leur jardin, ils seraient fiers de parler de toutes ces choses-là. Donc, ce ne sont pas forcément les plus beaux jardins, mais ce sont des jardins d'ornement.
Oui.
Et il est vrai qu'il y en a de très, très beaux, de très, très beaux parmi eux.
Alors, je pense également aux jardins publics.
Là, on a été trop vite, parce que je voudrais quand même, si c'est possible, parler parmi les jardins de particuliers. Certains sont vraiment des jardins ouverts à la visite. Et qui sont remarquables. Il y a évidemment le jardin de la Petite Rochelle, qui est le jardin de Madame Dandelot, qui est vraiment le jardin d'une collectionneuse. Elle détient plusieurs collections nationales au sein du jardin.
Vous parliez d'architecte, elle était sculpteur.
Oui,
c'est vrai que...
mais c'est pas pareil, parce que pour le coup, là, il y a très peu de lignes droites dans son jardin. C'est très ondulant.
Oui, mais elle voit les volumes.
Ah, elle voit les volumes. Oui, moi je dirais que c'est plus un jardin d'artiste.
Oui,
vraiment.
On peut dire.
Et puis de quelqu'un qui est amoureuse des plantes et qui a là, pour les amateurs de plantes, c'est merveilleux. Il y a aussi le jardin François, qui est un jardin ouvert toute l'année, absolument toute l'année au public, ce qui n'est pas si fréquent. Souvent, les jardins ferment l'hiver. Là, on peut y aller aussi alors qu'il neige ou... on peut même y aller à 6h du matin ou le soir de 22h, puisque le propriétaire se fait un honneur de dire aux gens que ça ouvre du lever du soleil jusqu'à au coucher du soleil. Et c'est vrai, c'est merveilleux de pouvoir voir un jardin.
Oui, quand il s'éveille le matin.
Ah, c'est beau, c'est beau. Alors, quand il y a un peu de brume sur les bassins, c'est ravissant.
Oui.
Donc ça, ce sont deux grands jardins qui se visitent. Mais il y a à Sérigny, il y a aussi l'arboretum de Boiscorde. Et puis après, il y a tous ces petits jardins chez Claire Stickland, à côté de Belloul, Trichard. Il y a
celui de Sigrid Avrillier.
Sigrid Avrillier, alors lui, il est ouvert mais complètement.
Racontez ce jardin, parce que c'est un jardin particulier que j'adore.
Oui.
Et elle-même.
C'est le jardin d'une femme absolument exceptionnelle.
Oui. Qui est
physicienne, donc une chercheuse. Et son jardin est né de son amour pour la recherche, je crois, parce qu'elle s'est penchée sur les jardins du Moyen-Âge, mais pas uniquement ce qu'on pouvait trouver en Europe, elle est allée voir du côté de la Perse, enfin, et puis la mythologie grecque, voir en Égypte que faisait-on, voilà. Elle a fouillé, cherché, c'est incroyable, et tout dans son jardin, et c'est au hasard. Elle a même, comme elle est aussi sculpteur, elle a tous les talents, elle a fait ça, une fontaine ravissante qui est donc au milieu de ce jardin assez régulier, parce que donc assez inspiré du Moyen-Âge. Mais à cette grosse différence, c'est qu'au Moyen-Âge, on fermait les jardins parce qu'on avait peur de la nature, il fallait s'en préserver, donc c'était clos de mur. Son jardin est complètement ouvert. Et il suffit de prendre le petit chemin qui borde le jardin avec les champs. Tout le monde peut le voir toute l'année, oui. Là aussi. Alors, bon, il n'est pas toujours beau toute l'année.
Oui.
Mais...
Alors, nous l'avons reçu pour... je crois que nous avons fait un tout petit tour de jardin. Et j'espère bien, Nadia de Carmel, que vous viendrez parce que... Le quart d'heure a passé trop vite.
Il faudrait que je vous parle aussi, sinon, du Pré-Catelan, qui n'est pas tout à fait dans le Perche, mais qui est un très, très beau jardin du 19e et qu'il faudrait donc visiter absolument, qui est à côté de la maison de Tante Léonie, la tante de Marcel Proust.
Eh bien, je crois que vous reviendrez spécialement pour ce jardin.
Ok,
Un grand merci à vous. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci Nadia de Carmel.
Merci.